Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur BFM TV et RMC. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. Alors que cette interview n'avait même pas commencé, je vous ai vu lever les yeux au ciel. Parce qu'à l'instant, sur BFM TV, alors que Christophe et Adeline me demandaient qui je recevais, je disais, c'est le moment de demander au gouvernement. Le gouvernement accorde pratiquement tout avant les JO. Pour votre plus grand plaisir, disais-je. Et je vous ai vu lever les yeux au ciel. C'est vrai quand même, non? En ce moment, on menace de grève pour les JO et on obtient tout.
Eh bien écoutez, non, pas du tout, puisque malheureusement, le gouvernement est en train d'annoncer une réforme de l'assurance chômage ça serait la cinquième fois qu'il ferait une réforme de l'assurance chômage depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, donc il y a un acharnement déjà qui est assez incompréhensible et c'est la réforme de l'assurance chômage la plus violente depuis 7 ans. Si cette réforme s'applique, elle pénaliserait plus de 1 million de personnes, notamment les jeunes, les précaires et les seniors, et les conséquences très concrètes, c'est que ça serait beaucoup plus difficile d'avoir accès aux allocations chômage, parce que pour pouvoir être indemnisé, il faudrait travailler au moins 8 mois.
Pendant les 20 mois précédents.
Hein. Exactement. Et donc, ça pénalise directement toutes celles et ceux qui sont dans des secteurs dans lesquels l'emploi est par nature précaire. Dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la culture, il y a plein de secteurs dans lesquels on ne peut pas travailler à l'année parce qu'il n'y a pas de boulot à l'année.
Et on va y revenir parce qu'effectivement, il y a au fond ces deux dossiers en parallèle. Et presque quand je vous écoute, je me demande si le gouvernement ne joue pas un peu justement, comme on dit, bon flic, mauvais flic, c'est-à-dire d'un côté on donne, pour de l'autre côté peut-être mieux retirer. L'assurance chômage et cette réforme, on va en parler dans un instant, vous êtes convoqué à 19h tout à l'heure par la ministre du Travail justement pour parler du contenu de cette réforme qui veut mettre la pression aux chômeurs, mais malgré tout, je vous interroge tout de suite sur cette question des grèves et des primes aux JO. Il y a eu hier cette grève à la SNCF Île-de-France. Il semble que la direction de la SNCF ait accepté d'octroyer jusqu'à 1900 euros de primes pour cet été aux agents qui travailleront, 95 euros par jour. Ça représente 50 millions d'euros pour la SNCF. Et pourtant, semble-t-il, vous n'acceptez pas le deal ?
Écoutez, la décision est en train d'être prise, donc moi je ne la connais pas. On ne décide pas tout seul, on consulte les syndiqués, les salariés, les cheminots. C'est les cheminotes et les cheminotes qui vont décider. Et donc ça sera connu dans les prochaines heures. Mais là, je ne peux pas vous l'annoncer. Moi, je ne connais pas la décision.
Sudrail s'est déjà exprimé et Sudrail dit qu'il ne signe pas en l'état, qu'il se laisse encore le temps de réfléchir. Mais honnêtement, jusqu'à 1900 euros de primes, c'est pas mal quand même.
Écoutez, je n'ai pas négocié cet accord. Ce que je sais, c'est que c'est normal quand on a des contraintes supplémentaires qui seront importantes avec les Jeux Olympiques. C'est normal que ces contraintes soient reconnues. Et donc, c'est normal qu'il puisse y avoir des négociations pour les reconnaître et puis aussi pour organiser le travail des cheminots et des cheminotes pendant les Jeux.
Ils demandaient 50 euros par jour.
Oui.
Ils ont obtenu 95 euros par jour.
Écoutez, encore une fois, c'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est aux cheminots et aux cheminotes.
Oui, vous avez la décision quand même de... d'être la patronne de la CGT.
Eh bien non, justement, je n'ai pas d'avis sur tout parce que ça n'est pas moi, contrairement à Emmanuel Macron, ça n'est pas moi qui décide toute seule de tout. Là, en l'occurrence, je ne décide pas. Ce sont les cheminots et les cheminotes qui décident et c'est une très bonne chose. Ça s'appelle la démocratie.
Ça s'appelle la démocratie. Je rebondis quand même sur ce que vous dites à l'instant. Ça veut dire que vous estimez qu'Emmanuel Macron ne joue pas le jeu de la démocratie.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui est très frappant, en fait, dans la période, c'est que systématiquement, dans toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le pays, le gouvernement est incapable de régler aucun conflit. Au contraire, il passe son temps à mettre de l'huile sur le feu. Quoi de commun entre la réforme des retraites, les émeutes des quartiers populaires, la Nouvelle-Calédonie, les JO, la SNCF, la mobilisation des étudiants à Sciences Po, etc. C'est qu'à chaque fois, le gouvernement, au lieu de régler le conflit, met de l'huile sur le feu. Et je pense que c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, malheureusement. C'est qu'il pense qu'il a la vérité sur tout seul, qu'il peut tout régler tout seul, sans en parler à personne, et on voit que ça met le pays en feu. Donc il faut changer de méthode et changer évidemment de cap politique.
Si on reste sur la question de la SNCF, vous avez vu que le gouvernement se dit très mécontent des accords qui ont été obtenus. Là, on n'est pas sur seulement la question des primes pour cet été, mais aussi l'accord qui a été obtenu, notamment par les contrôleurs qui vont pouvoir partir 18 mois plus tôt que l'âge légal de départ à la retraite en étant payés 75%. À votre place, hier, c'était le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui dit carrément qu'il faut privatiser la SNCF.
c'est une honte de dire ce genre de choses. Il suffit d'aller voir en Grande-Bretagne pour voir ce que ça donne de privatiser le réseau ferroviaire. Les trains, c'est une catastrophe en Grande-Bretagne avec des accidents mortels du fait de la privatisation. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que le gouvernement a inventé un nouveau motif de licenciement. Maintenant, on licencie les patrons qui signent des accords avec les salariés.
Vous faites référence au fait que M. Farangeau, le patron de la SNCF, n'aura pas son mandat renouvelé après les Jeux Olympiques. Et on le sent bien, c'est une forme de sanction. Bruno Le Maire, ici même, lors d'une interview avec moi il y a 2 semaines, disait son incompréhension face au patron de la SNCF, qui ne l'avait pas consulté, semble-t-il, pour cet accord. Et on a appris dans les heures suivantes qu'il ne serait donc effectivement pas renouvelé après les JO.
Oui, c'est très choquant, en fait. J'aurais aimé que Bruno Le Maire dise son incompréhension vis-à-vis des décisions du patron de Stellantis, par exemple, qui a décidé de s'octroyer une rémunération de 36 millions d'euros, c'est-à-dire plus que ce que va coûter cet accord permettant des départs anticipés pour près de 200 000 cheminots, pour le même montant.
Mais là, vous mélangez entreprise privée, entreprise publique.
Oui, sauf que les actions de cette entreprise privée ont un impact sur tout le pays, puisqu'il s'octroie une rémunération de 36 millions d'euros, ce patron de Stellantis, et dans le même temps, il licencie et il ferme des usines en toute impunité, et le gouvernement ne lève pas le petit doigt. Donc, c'est quand même grave que la seule chose que fait le gouvernement pour recadrer des patrons, c'est recadrer les patrons qui négocient. Nous, ce qu'on souhaite,
pour
c'est
une fois, vous êtes du côté du patron, là.
C'est que le gouvernement recadre tous les patrons qui ne négocient pas et qui passent leur temps à faire exploser leur rémunération, celle des actionnaires. Pourquoi est-ce que Bruno Le Maire n'a pas convoqué le patron de Total qui vient de décider de faire traverser à Total l'Atlantique ? Maintenant, Total sera à la bourse de New York et plus à la bourse
c'est
de Paris.
C'est pas encore complètement fait, mais c'est, on le sent bien, l'objectif, en tout cas, c'est le projet de
et
Total.
Et le gouvernement s'en fiche. C'est grave.
Vous pouvez pas
même dire
qu'il s'en fiche, c'est-à-dire que
il a rien dit.
Ils disent leur mécontentement. Bruno Le Maire dit que ça lui plairait pas du tout, et Emmanuel Macron lui-même, dans les colonnes de l'Express cette semaine, dit qu'il n'en est absolument pas satisfait et qu'il va tout faire pour que Total reste.
Et qu'est-ce qu'il attend pour le convoquer? Je lui pose la question. Et le gouvernement a quand même quelques leviers d'action sur Total, puisque je rappelle que tous les bénéfices de Total sont liés à la diplomatie internationale de la France. C'est pas d'un claquement de doigts que Total récupère des marchés à l'international. C'est parce qu'il est dans le Falcon présidentiel, dans un certain nombre de déplacements diplomatique du gouvernement et du président de la République.
Vous estimez carrément que là, il faudrait que Emmanuel Macron, le gouvernement, utilise tous les moyens de pression possibles pour empêcher Total de passer, la cotation de Total de passer sous pavillon de New York.
Oui, je pense que le gouvernement doit agir sur les multinationales françaises. C'est plus possible qu'on leur laisse la bride sur le cou. Le résultat, c'est quoi? C'est que nous avons dévoilé.
Vous avez apporté ici une carte, hein.
Voilà.
La carte des suppressions d'emplois et menaces sur l'emploi depuis septembre 2023.
Voilà. C'est plus de 130 sites en France qui sont actuellement avec des plans de licenciement ou des menaces sur l'emploi. Pourquoi? Parce qu'on laisse la bride sur le cou aux multinationales et qu'on leur laisse faire ce qu'elles veulent d'un point de vue économique. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 000 emplois qui sont en train de disparaître en France, essentiellement dans l'industrie. Et que fait le gouvernement? Il veut imposer une réforme de l'assurance chômage d'une violence inédite. C'est scandaleux.
60 000 emplois menacés, dites-vous, avec effectivement cette carte à l'appui. C'est à mettre au regard des 90 000 emplois que le gouvernement estime pouvoir créer en mettant plus de pression sur les chômeurs. J'en viens bien sûr à cette réforme de l'assurance chômage. Vous irez donc, je le disais, à 19h tout à l'heure, Sophie Binet, au ministère du Travail pour être consultée. Est-ce une véritable consultation d'ailleurs?
Pas bonne question. Malheureusement, le gouvernement a déjà ficelé sa réforme et il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a déjà tout décidé tout seul.
Et
la preuve, il voulait l'annoncer avant même de nous recevoir.
Et ce qu'il y a d'ailleurs donc dans cette réforme, c'est l'idée notamment de devoir avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour pouvoir prétendre obtenir l'assurance chômage. Ça représenterait 3,6 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Et la ministre du Travail dit que ça pourrait créer jusqu'à 90 000 emplois.
C'est totalement fantaisiste. J'ai envie de lui demander quel est son mode de calcul, quelle est sa source. Aucun expert n'a jamais évalué les emplois créés par les précédentes réformes de l'assurance chômage, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu d'évaluation de ces réformes, et parce qu'aucun expert n'a jamais fait le lien entre une réforme qui s'attaque aux droits des chômeurs et une réforme qui fait reculer le chômage. Il n'y a pas de lien, cette réforme ne va pas créer d'emplois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette carte de France sur les suppressions de postes, ça, c'est pas au doigt mouillé. C'est des remontées réelles de toutes les usines qui sont en train de fermer en France et que le gouvernement laisse fermer. C'est là-dessus qu'il faut agir au lieu de raconter que par magie, ils vont créer 90 000 emplois en prenant les droits des chômeurs.
Il précise qu'il y aura en échange une sorte de bonus-malus pour les entreprises, pour les inciter à proposer des contrats plus longs. Vous y croyez ?
Écoutez, ce bonus-malus existe déjà, il est homéopathique et donc il ne fait peur à personne. La preuve, la précarité, elle ne cesse de progresser. Si le gouvernement veut vraiment lutter contre la précarité, il faut réformer le code du travail pour rendre beaucoup plus coûteux le fait d'abuser des CDD et des contrats d'intérim, par exemple, chose que le gouvernement ne fait pas du tout.
Il n'y a pas de modification, en revanche, de la durée d'indemnisation.
Écoutez, on verra ce soir. On n'a pas encore tous les éléments de cette réforme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais ce soir au rendez-vous. C'est pour
avoir
l'ensemble.
Vous avez hésité ?
Oui, évidemment, puisque on sait a priori que notre avis importe peu à la ministre et au gouvernement. Mais nous y allons ce soir pour avoir l'ensemble des informations, parce qu'il y a un impact sur plus d'un million de personnes. Donc c'est très important que le gouvernement dise la vérité et qu'enfin on puisse évaluer les conséquences de cette réforme violente de façon à permettre aux gens de se mobiliser pour empêcher cette réforme.
Se mobiliser, on va y revenir, j'entends bien ce qu'il y a derrière, mais pour rester encore sur ce que vous allez pouvoir vous dire ce soir avec la ministre, semble-t-il la manière ensuite dont sera appliquée cette décision, ça pourrait être par décret, ça veut dire qu'il n'y aura pas de loi, donc pas de débat au Parlement. Est-ce que la méthode également vous choque ?
Oui, tout à fait. C'est un scandale démocratique. La démocratie sociale est bafouée, la démocratie politique l'est aussi. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons qu'une proposition de loi soit déposée à l'Assemblée. Elle va être examinée le 13 juin prochain et elle doit permettre à tous les députés à s'exprimer sur cette réforme de l'assurance chômage et à rejeter le projet du gouvernement.
Déposé par qui ?
Déposé par le groupe Lyot. C'est un petit groupe.
C'est le groupe. Non, mais le groupe qui avait déjà failli faire basculer le gouvernement avec notamment Charles Courson.
Tout à fait. Un groupe centriste, on va dire, à l'Assemblée nationale, ce qui doit permettre à l'ensemble de l'Assemblée de pouvoir voter cette proposition de loi et ainsi de mettre en échec la réforme du gouvernement. Donc on se donne rendez-vous le 13 juin prochain à l'Assemblée nationale et on interpelle tous les parlementaires pour voter cette proposition de loi et ainsi faire échec à cette réforme violente du gouvernement.
Et décider de notre mobilisation, voilà le mot que vous avez eu à l'instant, Sophie Binet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez l'idée de grève éventuelle, de réaction, de...
Eh bien, écoutez, ces
Quelle
grèves.
Quelle forme prendra cette mobilisation?
Ces grèves, elles existent déjà. J'étais à Cannes la semaine dernière avec les salariés du festival, beaucoup de précaires qui appellent à la grève pour dénoncer cette réforme de l'assurance chômage, qui, si elle était adoptée, ferait que leur métier serait intenable, puisque des festivals, on voit bien que par nature, il n'y en a pas toute l'année. Et donc, si la réforme était adoptée, ils n'auraient plus de revenus pour vivre. Donc c'est ce type d'action.
Là, c'est précisément la question du avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois.
Oui, tout à fait. C'est exactement cette question-là. Vendredi, la CGT organise des actions dans de très nombreuses agences de Pôle emploi pour dénoncer la réforme et mettre en visibilité la situation des privés d'emploi. Je rappelle que aujourd'hui, c'est plus de 50% des personnes qui touchent des allocations chômage qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a des privés d'emploi qui sont dans une situation très dure. Et puis la deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que cette question, c'est la nôtre à toutes et tous, puisque on sait que la moitié des salariés, à un moment dans leur parcours professionnel, peuvent être concernés par le chômage. Donc le chômage, c'est pas seulement la question des chômeurs aujourd'hui, c'est la question de tous les salariés. Et Emmanuel Macron, s'il fait cette réforme, c'est d'abord pour nous voler 4 milliards d'euros, ça on l'a compris, et puis ensuite c'est pour tirer les droits de tous les salariés vers le bas en nous forçant à accepter n'importe quelle condition de travail, de salaire, parce que nous retrouverons la peur du chômage et la peur du licenciement.
Vous avez plusieurs fois, depuis le début de cette interview, évoqué l'idée que la démocratie était bafouée. Il y a des élections dans un peu plus de 2 semaines, les élections européennes. Est-ce que vous allez vous engager davantage ? Est-ce que vous invitez ceux qui nous écoutent à voter pour telle ou telle liste ?
Oui, la CGT appelle d'abord à aller voter le 9 juin prochain parce que ce qui se passe en Europe est très important pour notre quotidien de travailleuses et de travailleurs. La CGT ensuite appelle à, dénonce le danger de l'extrême droite pour le monde du travail. Il n'a pas de pire ennemi pour les travailleuses et les travailleurs que l'extrême droite. On a regardé leur bilan quand ils étaient au Parlement de Strasbourg et à chaque fois que les droits des travailleuses et travailleurs étaient en jeu, soit ils étaient absents, c'est leur spécialité, soit fois, ils votaient contre l'augmentation des salaires, la taxation des multinationales, les droits des femmes. Voilà, donc leur bilan, on le connaît, on le sait qu'ils sont très dangereux. Et puis enfin, la semaine prochaine, la CGT va interpeller les candidats aux élections européennes, hors extrême droite à qui nous ne parlons pas, pour leur demander de prendre position sur les questions sociales, sur les questions industrielles et sur les questions environnementales.
Est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, vous pourriez dire, bah voilà, la CGT vote pour tel ou tel?
À l'issue de cette rencontre, on publiera les réponses des candidates et des candidats et les travailleuses et les travailleurs pourront les comparer avec les propositions que nous portons. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut réorienter en profondeur la construction européenne, mettre fin à cette Europe du dumping social et du dumping fiscal et construire enfin une Europe des travailleuses et des travailleurs.
Sophie Binet, Emmanuel Macron est en ce moment même en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous estimeriez, comme la France insoumise, que la France est là-bas une puissance colonisatrice ?
La Nouvelle-Calédonie, c'est le dernier conflit colonial. Je suis très inquiète par ce qui se passe là-bas. Nous sommes très choqués par la façon dont Emmanuel Macron a traité le sujet de façon extrêmement nonchalante, on va dire au mieux, avec une multiplication de provocations envers les habitants de Nouvelle-Calédonie.
Provocation pour vous ?
Oui, provocation, bien sûr. Prendre au gouvernement Sonia Backès, qui représente l'aile dure des loyalistes en Nouvelle-Calédonie, c'est une provocation. Remettre en cause les accords de Nouméa en remettant en cause le corps électoral, c'est une provocation.
Enfin, le corps électoral, dans les accords de Nouméa, il y avait déjà l'idée d'aller progressivement vers un dégel du corps électoral.
Oui, sauf que ça devait se faire.
C'est pas sorti du chapeau.
Ça devait se faire toujours dans un cadre de dialogue. Ce cadre de dialogue a été rompu par le gouvernement. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement retrouve la voie du dialogue, mette en place une médiation extrêmement rapide avec des médiateurs qui rassemblent et qui sont indépendants pour pouvoir apaiser la situation. Là, c'est vraiment la méthode Macron qui est responsable de ce conflit qui était tout à fait prévisible. La CGT, elle travaille en lien avec le syndicat Kanak, l'USTKE, que j'ai rencontré il y a 8 mois. Il y a 8 mois déjà, ils m'ont dit, tu vas voir, ça va mal se passer, malheureusement. Et malheureusement, tous les observateurs
avaient prédit ce qui est en train de se passer. Donc vous estimez pour le coup qu'Emmanuel Macron va aujourd'hui tenter de solutionner une situation qu'il a lui-même créée.
Exactement.
Sophie Binet, la réforme de la fonction publique, les négociations, les discussions sont en cours, il semble que ça se passe pas très bien. Le ministre de la fonction publique n'a pas l'air de trouver beaucoup d'oreilles attentives du côté des syndicats. Il avait immédiatement proposé, avant même le début de ces discussions, la fin du statut, donc du statut du travail à vie pour la fonction publique, pour les fonctionnaires. Est-ce que ça peut quand même aboutir ou est-ce qu'effectivement les discussions sont au point mort?
Bah écoutez, nous sommes très inquiets sur la façon dont se déroulent ces discussions. D'abord, c'était quand même très étonnant que le ministre annonce dans la presse qu'il voulait permettre de licencier les fonctionnaires en dehors même des concertations, sans même nous le dire à nous. Ensuite, cette annonce, évidemment que c'est une provocation complète. Et c'est très dangereux dans un moment où l'extrême droite peut arriver au pouvoir.
Pourquoi ?
Parce que le statut de la fonction publique, c'est une protection pour notre état de droit et pour notre démocratie. Si, quand l'extrême droite arrive en direction de municipalités ou arrive, catastrophe, en direction de l'État, elle peut licencier tous les hauts fonctionnaires et remettre une administration à sa main, ça veut dire une rupture pour l'état de droit. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump veut faire aux États-Unis, où il veut changer toute la haute fonction publique pour reprendre en main l'administration américaine.
Mais là-bas, c'est légal.
Là-bas, c'est légal.
C'est effectivement.
Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que ça devienne légal en France pour garantir d'avoir des fonctionnaires au service de l'intérêt général.
Sur la question de la rémunération, on a bien compris votre inquiétude sur le plan démocratique. Sur la question de la rémunération, l'idée d'avoir une rémunération davantage au mérite et moins sous une forme de grille avec les catégories A, B, C des fonctionnaires. Est-ce que ça, vous vous dites, au fond, c'est peut-être dans l'air du temps et c'est peut-être nécessaire?
Bah écoutez, ça fait encore partie des provocations. Je pense que tous les fonctionnaires...
J'avais été frappée sur RMC du nombre de témoignages, y compris de fonctionnaires de la fonction publique, qui disaient au fond qu'ils y étaient plutôt favorables parce qu'eux étaient frustrés parfois de ne pas pouvoir envisager une augmentation de leurs revenus en fonction de leurs mérites.
Mais en fait, ce qui est très frustrant pour les fonctionnaires, c'est d'être si mal payés. On a les fonctionnaires des parmi les pays de l'OCDE qui sont les moins bien payés. Les infirmières en France sont particulièrement mal payées, les enseignants et les enseignantes aussi, les médecins hospitaliers aussi. Donc il y a besoin de relever le niveau de rémunération dans la fonction publique, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est un problème d'attractivité. C'est pour ça que c'est un non-sens de prétendre licencier les fonctionnaires ou modifier leur grille de rémunération à la baisse, alors que l'enjeu, c'est d'attirer des talents, d'attirer davantage de fonctionnaires, parce qu'aujourd'hui, notre fonction publique, elle peine à recruter. On a des soignantes qui, par centaines, quittent nos hôpitaux publics parce qu'ils ne se retrouvent plus ni dans la rémunération, ni surtout dans les conditions de travail, dans la façon dont on les fait travailler. L'alarme, elle est là, c'est à ça qu'il faut répondre.
Merci Sophie Binet d'être venue répondre à mes questions ce matin. Secrétaire générale de la CGT, cette rencontre donc tout à l'heure à 19h avec la ministre du Travail, on l'a bien entendu, vous serez prête à appeler à la mobilisation s'il n'y a pas davantage d'écoute et de démocratie. Merci à vous. 8h52 sur RMC BFM TV.